Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons découvrir l'histoire d'une jeune femme, Amélie, la véritable Jeanne d'Arc de Belleville, qui se retrouve au cœur même d'un règlement de compte chez les Apaches. Bienvenue, Histoire Nocturne. La Marseillaise de la Courtille, écrite elle aussi pendant la Révolution française, était moins revancharde que celle de Rouget de Lisle. Elle rendait hommage à la cuisine française et au quartier de la Courtille, lieu de fête et de plaisir qui se situait sur les hauteurs de Belleville. On buvait ferme dans les guinguettes à cette époque, et particulièrement pendant le carnaval de Paris, de l'autre côté du mur des fermiers généraux, sur les barrières festives de Picpus, de Ménilmontant, de Belleville, de Charenton, de Charonne, ou d'autres encore aux noms plus évocateurs, barrière de l'Oursine, des Vertus, de la Choupinette ou de la Boyauterie. Un tableau datant de la Restauration décrit très bien le quartier de la Courtille, le théâtre de notre histoire. Là, il n'est question ni des Grecs, ni des Jésuites, ni de la Sainte Alliance de la République d'Haïti. Il n'est question que de bien boire, manger, danser, ouvriers, bourgeois, militaires, hommes décorés, femmes en bonnet ou en chapeau. Tout est confondu dans les guinguettes autour du vin, du bon veau, de la giboulotte de lapin, de l'oie en daube ou rôti. Dans une lettre à Juliette Drouet, écrite dans le Mardi Gras de l'année 1833, Victor Hugo évoque lui aussi la fameuse descente de la Courtille, un des trois grands cortèges du carnaval de Paris avec ses masques déguenillés, souillés de boue, ivres, eux de vin et d'autres d'amour. Il est un temps pour danser et pour faire la fête, un autre pour haïr et se venger. Témoigne l'histoire de ces deux garçons qui eurent le malheur d'aimer plus que de raison une jeune fille aux cheveux blonds. Une romance à la Jules et Jim, version criminelle. Hélène de la Courtille a un nom plein de promesses, mais elle n'est pas une aristocrate, juste une femme de quartier de Belleville, une mère maquerelle lesbienne, prête à accueillir les filles perdues, jolies et un peu farouches qui travailleraient pour elle. Celle qui croise son chemin est encore une enfant, une jeune orléanaise de 15 ans. Elle s'appelle Amélie Ellie, est née en 1878 et vient de quitter son fiancé serrurier, à peine plus âgé qu'elle, avec qui elle s'était enfuie de chez ses parents. Furieux, le père Ferblantier a envoyé les gendarmes arrêter les bébés tourtereaux. La fugueuse s'est retrouvée quelques mois en maison de correction, mais désormais elle est libre. Et sa rencontre avec son initiatrice en amour va décider de la suite de son existence. Les deux femmes deviennent amantes. Hélène l'initie, elle lui donne du plaisir, elle l'aime vraiment, mais c'est du côté des garçons que lorgne Amélie, la plus belle guincheuse de Belleville. C'est eux qu'elle veut affoler. Contre monnaie sonnante et petite faveur. Elle a beau n'avoir que 15 ans, essaye y faire, il suffit de la voir se déhancher sur le trottoir et remonter son chignon blond d'un tour de main. Son surnom, ce sont ses admirateurs qui lui ont trouvé. Casque d'or. C'est dans le bistrot de la Pomme au Lard que la belle Amélie rencontre Bouchon, un gars de Charonne, proxénète de son état, qui lui propose de la soutenir. Qu'à cela ne tienne, Casque d'or commençait à se fatiguer des crises de jalousie de sa maquerelle et Bouchon a un si beau sourire. En moins de temps qu'il ne faut pour boire un coup de blanc, elle passe de l'une à l'autre. Elle a déniché son julot qui l'amènera le dimanche danser dans les guinguettes, même si elle sait que c'est son travail qui paiera les consommations. Mais Bouchon, la grande canaille, a arraché son masque et la maintient sur le trottoir plus qu'elle ne le voudrait. Monsieur est gourmand, il veut de l'argent, beaucoup d'argent. Et quand Amélie n'a pas fait son compte de clients, les claques pleuvent plus dru que la pluie sur le trottoir parisien. Indépendante et décidée, elle lui fausse compagnie. Il la traque dans Paris durant plusieurs jours, parvient à la localiser, mais il attend son heure pour la récupérer. Avec la liberté, Amélie a retrouvé sa gouaille et un beau jour de 1902, dans une guinguette de Joinville, elle tombe en arrêt sur Joseph Plaigneur, dit Mandat. Un ouvrier polisseur dont Jacques Becker, dans son film Casque d'or, fait de lui un charpentier, prénom oblige, poussant même la sanctification des personnages jusqu'à rebaptiser Amélie Marie. Ce ne sont pourtant pas des anges. La Marne est belle, l'absinthe bonne. la danse décisive. Et Manda a une façon de plonger ses yeux dans ceux de la jeune fille qui lui font perdre la tête. Son cœur s'emballe, ses yeux s'allument, la belle est amoureuse. Désormais, c'est Manda qui la protégera. Sauf que Bouchon est réapparu, mais plutôt que de s'en prendre à Manda, qui, même s'il n'a que 22 ans, est le chef de la bande des Orteaux, il préfère céder Amélie à un second couteau nommé Balai. On imagine le troc. Allez, je te la file et on fait 50-50, hein. Tu t'arranges avec Manda, vas-y. Manda, lui, coupe court à toute négociation. Il poignarde Balai dans le dos et file avec sa belle. En passant des bras de Bouchon à ceux de Manda, Casque d'Or a changé de trottoir, mais pas de vie. S'il suffisait de sauter du boulevard de Charonne à la rue des Orteaux pour changer de statut, ça se saurait, jeune fille. La première absinthe avalée, Joseph Plaigneur retrouve ses oripeaux. Sous le masque du beau Manda, Amélie découvre le rictus du petit chef de bande qui trafique, monte des coups plus ou moins crapuleux, un patron tyrannique qui fait bosser des filles et qui, à l'occasion, emballe l'une ou l'autre. Là encore, rien à voir avec Serge Reggiani, jeune premier du film de Becker, amoureux idéaliste et ombrageux, prince charmant de la classe ouvrière qui reste fidèle à sa belle, de leur première danse au bord de la Marne jusqu'à la guillotine. Les affaires douteuses de Manda, l'appelant souvent loin de Paris, Amélie s'ennuie. Par lassitude, provocation ou jalousie, elle se tourne vers un autre protecteur, François-Dominique, dit Leca, un Corse de 27 ans qui commande la bande des Pompinques. Aussitôt, l'âme revolver jaillisse, la guerre est déclarée. Trahi, sali, humilié par son ancienne protégée qui change de maître comme de trottoir, Mandala décide de sauver son orgueil et sa réputation. On n'abandonne pas le chef de la courtille d'un coup de hanche. L'histoire de Casque d'Or et de Mandala n'est qu'un fait divers du 20e arrondissement à l'orée du 20e siècle, qui fleure bon la passion, la rivalité et la dispute de quartier. Mais il suffit que la fiction ou l'histoire s'en empare pour que le fait divers prenne du galon et soit promu fait de société. Et dès que les apaches s'agitent, l'odeur du soufre se mêle à celle de l'amour. Car Bouchon, Manda et Leca sont des apaches, ces petits délinquants des faubourgs qui inspirent aux bourgeois parisiens la même frayeur que les peaux rouges aux commerçants de Virginie ou du Connecticut en route pour le Grand Ouest. Avec ses racailles promptes à sortir le couteau, la dispute de quartier prend tout de suite des allures de guerre de gang. Les protagonistes deviennent les héros de Corneille, Horace contre Curias, cette provinciale d'Amélie. Courtisane de proximité, se mue en belle Hélène, objet d'une lutte à mort entre Grecs et Troyens, héroïne d'une Iliade qui se jouerait entre Belleville et Ménilmontant. Sharks contre Jets, Montaigu contre Capulet, peu importe les lieux, les feuilletonistes de toutes les époques veillent, qui s'appellent Robert Wise ou Shakespeare. La presse populaire parisienne biche, le Gaulois, le Petit Journal, le Fait divers, toujours avides de sang frais et de cœur brisé, tiennent leur Esmeralda blonde. Quand la guerre apache s'étiolera, déclassée par une vraie guerre mondiale, c'est dans un de ces journaux, le Fait divers, que Casque d'Or publiera ses souvenirs racontant de bonne feuille en bonne feuille les surprises du crime, de l'amour et du hasard. Attendant, on s'étripe dans les rues de Belleville et une femme en est la cause. Les pompiers courent contre les Orteaux. Amélie ne déteste pas que tous ces hommes se battent pour elle. Une nuit de janvier 1902, c'est l'affrontement, bande contre bande, chef contre chef, honneur contre orgueil, ceux de Manda contre ceux de Leca. Sur le terrain, les Orteaux l'emportent, mais le chef de la bande rivale parvient à s'enfuir. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe et aiguë comme un glaive à deux tranchants. Même s'il ne connaissait sans doute pas ce proverbe de Salomon, le Corse Leca dut se le formuler à sa manière, car à partir du moment où Casque d'Or entra dans sa vie, tout bascula. Amoureux et possessif, œil brillant, bâchante, fière et lustrée, pantalon serré, hanches corsetées, gilet, foulard et casquette, Manda porte beau et n'a plus qu'une obsession. Montrer aux Corses à qui appartient Casque d'Or et la récupérer. C'est ainsi qu'il tente à plusieurs reprises d'envoyer Leca au grand cimetière marin de Bonifacio où, seul face à la mer, il n'empiètera plus sur son bout de trottoir parisien. En vain. À chaque fois, le Corse en réchappe. Un saint ou un ancêtre le protège. Il doit être béni par les dieux du 22, son long couteau de chasse. En l'espace d'une semaine, le cas reçoit un coup de couteau puis deux balles de revolver dans le bras et la jambe. Mais quand les policiers l'interrogent sur son lit d'hôpital, il ne dit rien. Un apache corse, ça tient sa langue. Plutôt mourir que balancer. Manda ne lui laisse plus le temps de respirer. À sa sortie de l'hôpital Tenon, entre la rue Pelleport et l'avenue Gambetta, le cas est à nouveau agressé au couteau. Trois coups, cette fois. Une lame vengeresse du clan Manda croit lui porter l'estocade. Il n'en est rien. En revanche, retour immédiat à l'hôpital. Et cette fois, la famille de Lecat dénonce le criminel. Le corps est un dur à cuire et Manda sait que la vengeance n'est pas un plat instantané. Pour l'heure, il doit fuir la police qui le recherche. Exilé un temps à Londres, il revient au pays. Il est arrêté par la police dans la région parisienne, à Alfortville, sans avoir eu le temps d'assouvir sa vengeance. En mai 1902, Joseph Pleigneur, dit Manda, est jugé par la cour d'assises de la Seine et condamné au bagne à perpétuité. Destination l'île du Diable, une des trois îles dites du Salut, au large de Kourou. Quelques mois plus tard, il aura la surprise d'y croiser Lecat, son éternel rival, qui a écopé de 8 ans de travaux forcés pour avoir été à l'origine d'une nouvelle fusillade contre la bande des Orteaux. Adieu les petits bistrots, la pomme au lard ou l'ange Gabriel, adieu le bal des vaches, adieu guinguette et goguette. Voici venir les heures de plomb, la chaleur torride, les moustiques, les fourmis, les amibes, les fièvres, les coliques, le silence de tombe à peine interrompu par le bruit répétitif en lacinant du choc des vagues qui déferlent sur les rochers. Sans compter ces milliers d'araignées et crabes, grosses comme une main d'homme et à la morsure venimeuse, dont le capitaine Dreyfus, qui séjourna à l'île du Diable de 1895 à 1899, raconte dans son journal de bagne comment elle s'infiltrait dans sa case. Et pas une goutte d'absinthe pour repenser à la rue des Orteaux, pour sentir la fraîcheur des rues de l'Orme, des amandiers ou des lilas. Pas de fée verte pour rêver aux caresses de l'amour. Il y a une belle chevelure blonde. Aucun des deux rivaux ne reviendra du bagne de Guyane. Casque d'or, elle, refait sa vie, raconte son histoire dans les cabarets, cultive sa légende de reine des Apaches. Sa cote de popularité est à son comble l'année où, à la sortie du cirque où elle officie comme assistante du dompteur, un fidèle de Manda tente de la poignarder pour assouvir enfin la vengeance de la bande des Orteaux et laver l'honneur du chef. La jeune femme esquive le fauve et s'en sort. Plus tard, elle défendra les vertus de la prostitution qui fait rêver les hommes et soulage les épouses. Puis, doucement, sa voix se diluera dans la nuit et les jours. Le 27 janvier 1917, elle troque son nom de légende en se mariant à un cordonnier. Casque d'or est morte, laissant la place à Madame Nardin, mère au foyer, épouse fidèle, vendeuse d'étoffes et de lingerie sur les marchés des Lilas et de Montreuil. Jusqu'à sa vraie mort en 1933, à l'âge de 55 ans, ainsi finissent souvent, comme Natacha Rostov, dans « Guerre et paix », les beautés sauvages, joyeuses et libres. La vie d'Amélie Ellie, dite « Casque d'or », est un roman. Une plaque commémorative posée à son nom dans un jardin du 20e arrondissement, entre la rue de Buzenval et la rue de la Réunion, décerne à l'héroïne le titre de « Jeune femme romanesque ». Romanesque, certes, mais surtout picaresque. Se situant quelque part entre Manon Lescaut et les mémoires de Barry Lyndon. Une vie comme un volcan, une de ces blessures qui ne cicatrise pas. C'était Histoire Nocturne. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces affaires dans Paris, capitale du crime, un ouvrage de Frédéric Defental et de Paul-Henri Moinet aux éditions Livres de Poche. Je vous dis à demain soir, même heure et même micro. Bye bye.